Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Julien Bayou.
Bonjour.
Vous êtes député Europe Écologie Les Verts de Paris. Beaucoup de questions à voir avec vous sur la fiscalité, sur la malbouffe, mais surtout sur le logement. Et alors je vais tout vous dire. La vérité, c'est qu'il y a donc une très grosse crise du logement. Mmh. Tout le monde le dit, que ce soit du côté des bailleurs, que ce soit du côté des professionnels, même le patronat. Tout le monde dit qu'il y a une crise du logement et des conséquences très importantes sur la vie des Français. Et quelle que soit d'ailleurs la configuration, que vous soyez locataire ou que vous souhaitiez devenir propriétaire. Le gouvernement devait faire des annonces aujourd'hui. Le ministre du Logement, le ministre de la Transition écologique, et puis finalement, plus rien. Ils ne sont pas prêts, visiblement. Ça n'est pas tranché. La raison officielle qu'on nous dit, c'est qu'il y a un décalage pour des raisons techniques. Et donc, vous, vous vous emparez du sujet, vous faites des propositions. Au fond, vous faites le boulot que le gouvernement, finalement, ne fait pas.
Oui, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ça tarde. Parce que la vérité, c'est que cette crise, elle n'est pas nouvelle. La Fondation Abbé Pierre nous dit, chaque 1er février, les chiffres, la vérité, le mal logement, 4 millions de mal logés, un nombre de SDF qui a doublé. Et malheureusement, on peut le voir dans les rues, qui ont doublé en 15 ans. Et puis, vous l'avez dit, finalement, une pression du logement qui prend à la gorge les ménages de plus en plus. Et voilà, quel que soit le mode d'habitat, on est locataire, le loyer augmente, et on est propriétaire, et bien le prix du crédit augmente, et ça prend à la gorge, et c'est le premier poste des ménages, et on n'en parle pas. Voilà, je veux dire, c'est étonnant comme ce gouvernement. Je dis
on
n'en
parle pas. Nous, les médias, on en parle. D'ailleurs, tout le monde alerte, je le disais, hein, les bailleurs, vous le disiez, la Fondation Abbé Pierre.
Mais
même Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, qui n'est pas tout à fait normalement dans la même catégorie que l'Abbé Pierre, il se retrouve à faire le même discours, à dire voilà. Attention, on va au-devant d'une catastrophe.
Mais vous voyez que par rapport à des sujets qui enflamment le débat public, le logement, qui est le premier poste de dépense, mais c'est aussi la clé de tous les droits. Il n'y a pas de droit à la santé si vous n'avez pas de logement, pas de droit à la vie privée, il n'aura une vie familiale. Vous n'aurez pas de travail si vous n'avez pas de logement. Enfin, voilà, c'est le premier de tous les droits. On n'agit pas, et je dis ce gouvernement, mais je pense au gouvernement précédent. Hein, finalement, Emmanuel Macron, puisque c'est lui le président, n'a rien fait sur le logement depuis son arrivée. Et donc, on attendait le Conseil national du logement. On attendait de l'action sur l'encadrement des loyers, sur l'encadrement des
foncier, il devait s'exprimer
la rénovation thermique.
Aujourd'hui, hein, précisément, les annonces devaient être faites aujourd'hui. Elles sont donc décalées officiellement pour des raisons techniques, mais il semble qu'ils aient du mal à trancher. Alors justement, on va écouter vos propositions à vous, en attendant. Et quand je dis à vous, c'est vous, Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts, mais c'est vous avec justement des députés aussi d'autres partis. En gros, quand je dis que vous avez fait le boulot du gouvernement, vous avez fait un boulot aussi transpartisan.
Oui, j'en suis très fier et très heureux de porter ces propositions sur l'encadrement des meublés touristiques. On s'attaque à la question de Airbnb, Abritel, Booking. Vous voyez, ce tsunami de logements qui sont retirés du marché pour être passés en meublés touristiques.
Alors c'est là que j'ai un peu du mal à comprendre quand même, Julien Bayou. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une énorme crise du logement et vous, la réponse, c'est de réduire Airbnb. Est-ce que c'est à la hauteur?
Oui, parce que c'est pas du tout anecdotique. Interrogez le sénateur de droite des Pays Basques, Max Brisson, il va vous dire, en fait, il y a des gamins qui sont mis à la rue à l'été pour que les logements puissent être mis en meublé touristique en haute saison. Interrogez le député socialiste du Pays Basque, Iñaki Echaniz, il va vous dire la pression sur ces résidences secondaires, tous ces logements qui sont transformés en résidences secondaires ou tous ces logements qui sont transformés en Airbnb. Et le député Horizon, qui est dans la majorité, et avec qui on ne sera pas d'accord sur les retraites, Christophe Plassard, eh bien, il vous dit, à Oléron, en Charente-Maritime, c'est ça, c'est les volets fermés, c'est des logements qui deviennent des Airbnb. En fait, on a des logements qui sont retirés du marché. Et je voudrais insister là-dessus, je vise pas, nous ne visons pas, bien sûr, ni le tourisme, ni la personne, le petit couple qui va louer son logement, celui où il habite, pendant qu'il n'est pas là, il va le mettre sur Airbnb. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, la question, c'est des investisseurs qui achètent des appartements, voire des immeubles entiers, à Paris par exemple, et qui les transforme intégralement en logement. Là, vous retirez du logement, vous spéculez dessus, et vous retirez
du parc immobilier
pour
les familles, pour les travailleurs.
Et ça anéantit les efforts de construction, ou les efforts de construction de logements sociaux. À Paris, c'est ça.
Ça représente
ça. À Paris, ça efface ce qu'on a pu construire sur les 15 dernières années. Vous aurez du mal à trouver, je vous mets au défi, de trouver un logement pour une famille avec deux enfants à Saint-Nazaire, par exemple. Dans le 3e arrondissement, là où je suis élu, vous avez 20-25 fois plus d'annonces de meublés touristiques que de logements classiques, vous voyez, en location.
En fait, ça touche tous les territoires.
Tous les territoires. Donc c'est pour ça que les élus de tous bords, et je le redis, majorité, pas majorité, de droite, socialiste,
le PS,
écologiste.
Les LR,
Et en plus, en vrai, ça nous fait du bien de travailler ensemble. Vraiment, on l'a constaté, on se chamaille, on n'est pas d'accord, mais pour le coup, sur des mesures très ambitieuses, la fin de la niche fiscale, le fait d'encadrer aussi les résidences secondaires, de mettre un agrément, un permis de louer, d'offrir aux collectivités, aux mairies, la capacité de contrôle et de régulation. Voilà, c'est ça qu'elles
nous
disent.
Donc concrètement, quelles sont les règles que vous allez imposer ou que vous voudriez pouvoir imposer?
En fait, on les a mis en place sur encadrons Airbnb.fr et on appelle les mairies à soutenir cet appel. Et moi, je suis heureux que Marseille, Lyon, Paris disent banco, on veut soutenir. Mais je suis aussi heureux que Saint-Julien-de-Calonne, je pense qu'à moins les honneurs des médias, 160 habitants en Normandie disent on n'en peut plus, on veut encadrer. Il y a plusieurs mesures. D'abord, il faut savoir qu'il y a une niche fiscale Airbnb.
C'est quoi? C'est-à-dire que si vous louez votre logement en Airbnb, vous payez moins d'impôts.
Enfin,
non seulement
moins.
Vous gagnez de l'argent avec Airbnb, mais vous allez payer moins d'impôts.
Bah, vous avez tout compris.
D'accord.
C'est plus lucratif et vous payez beaucoup moins d'impôts. Il y a un abattement de 71%. Je ne rentre pas dans les détails, mais la base, c'est que votre appartement, si vous avez la chance d'en avoir un, que vous le mettez en location, eh bien, vous devez être taxé, imposé pareil, selon qu'il est courte durée ou longue durée. C'est ça la
base. Selon que vous le louez à une famille à long terme ou à un Américain de passage.
Bien sûr, il faut arrêter le pouce au crime, envie de dire, l'incitation. Donc ça, c'est la première mesure, c'est la
fin
de la niche fiscale.
Supprimer cette niche fiscale.
Supprimer la niche fiscale. C'est bon pour les impôts et puis c'est bon pour l'égalité. Et ce n'est pas un vain mot, c'est important. Et une autre mesure d'égalité, c'est que si vous avez une passoire énergétique, vous savez qu'on ne peut plus la louer. Ces appartements qui sont mal isolés, qui consomment énormément, pour soutenir la rénovation thermique, là encore, on attendrait que le gouvernement mette les moyens, c'est autre chose, mais c'est interdit de les louer en classique. Mais vous pouvez les louer en...
Mais non.
Eh oui, en meublé touristique. Et donc, vous avez tout compris, il y a des petits malins qui louent plus cher, qui payent moins d'impôts et qui louent ce qui ne peut pas être loué par ailleurs. Donc évidemment, boum, les passoires énergétiques, elles basculent massivement.
Donc là, déjà, rien que de supprimer ces avantages, en quelque sorte, ce serait
un petit
déjà remettre une sorte d'équilibrage. Qui vous suit? Est-ce que les maires vous suivent?
Les maires suivent. Les maires suivent. Sur encadronsairbnb.fr, on a des témoignages vraiment poignants des endroits où il y a des centaines d'habitants, mais des dizaines de propriétaires.
Des témoignages, le fait que tout le monde partage votre constat, et on le voit bien, c'est pour le coup dans tous les territoires et quel que soit le bord politique. Mais est-ce qu'il y a des villes,
plus loin, la Fédération
est-ce qu'il y a des maires
du
qui aujourd'hui disent « Ok, on s'engage, on signe votre appel et on demande à ce que ça passe ».
Mais oui, je vous disais, Paris, Lyon, Marseille et d'autres villes veulent
s'engager. Paris, Lyon, Marseille, les autres villes, vous avez la liste ?
Saint-Rémy-de-Provence, par exemple, qui est pas évidemment de la même taille que...
Oui, mais c'est important de voir que ce serait dans toute la France.
Oui, Biarritz, par exemple, soutient. Vous avez Saint-Malo, maintenant, qui est en procès contre Airbnb. On a aussi des mairies qui nous disent « Écoutez, nous, on fait ce qu'on peut sur notre territoire ». Des fois, ils sont même attaqués par Airbnb, Biarritz, Saint-Malo. Et donc, il y a un enjeu d'une règle au niveau national qui les sécurise juridiquement.
Est-ce que ça va passer au niveau national? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez une chance, malgré le fait que le gouvernement, en effet, soit plutôt abonné absent sur cette question du logement pour l'instant, que ce soit adopté?
Oui, j'espère, oui. En juin, nous porterons, j'espère, une initiative transpartisane. J'espère qu'elle pourra passer. Si je suis honnête avec vous, la vérité, c'est qu'on a besoin du gouvernement. Parce que sur des questions d'encadrement, de budget, c'est pas des propositions de loi. Je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas des propositions de loi qui veulent le faire. Si on veut mettre
c'est de la
place...
réglementation.
Oui, et puis c'est des questions de budget. Et nous, parlementaires, on est trop enserrés. On peut pas créer un organisme, par exemple, avec les budgets, les fonctionnaires, les agents qui aident les mairies ou qui vont contrôler. Ça dépend du gouvernement. Et c'est pour ça que, bien sûr, que nous, on fera feu de tout bois au projet de loi de finances, sur une proposition de loi transpartisane. Mais pitié, vraiment, j'appelle le ministre du Logement à agir. Voilà. C'est un tsunami silencieux. Vraiment, les gens disent, on ne peut plus
loger. En fait, c'est comme si vous aviez préparé le boulot pour le gouvernement.
Tout est prêt.
Et maintenant, vous attendez simplement qu'ils appuient sur le bouton.
Tout est prêt.
Qu'est-ce qui les retient?
J'aimerais savoir. J'aimerais savoir parce que vraiment, qui va blâmer le gouvernement parce qu'il aura agi courageusement sur le logement? Qui va se plaindre? Vous voyez, sur la rénovation thermique, nous avions arraché 7 milliards d'euros au projet de loi de finances, donc à l'automne. C'est-à-dire 7 milliards d'euros qui allaient aider les particuliers à faire la rénovation, donc à moins payer de chauffage, à vivre mieux, même en été. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est même bon pour l'indépendance énergétique. Ces 7 milliards, ils ont dit on n'en veut pas, et avec le 49.3, ils sont revenus dessus. Je ne comprends pas. Voilà, la Fédération française du bâtiment réclame d'agir, les maires réclament d'agir, la Fondation Abbé Pierre réclame d'agir, les particuliers disent aidez-nous, les artisans, pourquoi je ne comprends pas.
Il n'y a pas d'annonce sur le logement, on l'a bien compris. Il y a des annonces en revanche sur les fraudes fiscales et sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est Gabriel Attal qui s'en est emparé, le ministre des Comptes publics, qui l'a annoncé hier soir dans une interview au Monde. Sa priorité, dit-il, c'est, je cite, « faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent ». Vous applaudissez ?
Oui, j'applaudis. C'est la base. C'est vraiment, je crois, le fondement de ce qui est... Oui, on est en train de déclarer nos impôts ces jours-ci, jusqu'à juin. On paye des impôts parce qu'on a la certitude que vous et moi, on en paye. Vous êtes un peu plus riche que moi, vous en payerez un peu plus. On ne sait pas très bien combien, mais l'important, c'est que chacun contribue selon sa juste part. C'est vraiment ça l'essentiel. Et depuis, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, vraiment, on peut avoir le sentiment que les plus riches ne payent pas leur juste part, que les multinationales payent beaucoup moins d'impôts que l'artisan d'à côté.
Mais c'est en ça, fait, il a parfaitement réussi son coup, Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'en fait, son objectif, c'était sans doute avec ce genre de formule, c'est-à-dire qu'on a rarement entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal ce genre de formule, les ultra-riches. Multinationales, c'est pour vous séduire. Êtes à fond.
Qu'est-ce que j'ai pas entendu quand je parlais des ultra-riches qui faisaient des vols capricieux en jet privé? Et on va l'avoir à nouveau au Festival de Cannes et au Grand Prix de Monaco, les ultra-riches qui payent pas leur juste part d'impôts et qui ultra-polluent la planète. Mais pour une fois que le ministre du Budget dit « allons taxer les ultra-riches », bien sûr j'applaudis, moi je veux des actes. Mais la notion d'indignité fiscale et civique est vraiment importante.
Le consentement. Alors, elle existe déjà, visiblement.
Mais qu'il l'applique. Par exemple, une mesure toute simple. Vous savez qu'une fois, il y avait un match de l'équipe de France face à la Suisse en Suisse, et on disait les deux équipes jouent à domicile. Parce que il y avait quasiment tous les joueurs de tennis de l'équipe de France qui étaient domiciliés en Suisse. Eh bien, indignité fiscale et civique.
Y compris, vous voulez dire, pour des personnages comme des sportifs,
c'est
comme
l'exemplarité.
Des patrons.
Regardez, aujourd'hui,
de leurs droits civiques.
Non, mais de la participation de l'équipe de France. Aujourd'hui, je crois que parmi les grands joueurs de foot, il y a à peu près que Karim Benzema qui paye ses impôts sur le droit à l'image en France depuis toujours.
Vous pensez que paye pas ses impôts en France?
Je sais pas, mais payer ses impôts, c'est prendre soin de la communauté. C'est finalement, c'est ça, être patriote.
Vous avez des informations sur Mbappé qui paierait pas ses impôts en France?
Je sais pas. Moi, je parlais de l'équipe de France de tennis.
Parce que vous m'avez dit Benzema, c'était pas l'équipe de France de tennis.
Non, je voulais pas dire que tous les joueurs ne payaient pas leurs impôts. Donc moi, j'ai deux éléments en tête qui viennent. Karim Benzema, dont on me dit qu'il paye ses impôts en France et je m'en réjouis. Et puis, l'équipe de France de tennis, dont beaucoup étaient domiciliés en Suisse.
Et dans ces cas-là, tant pis, ils n'ont plus le droit de représenter la France.
Mais je pense que ça serait une vraie vertu d'exemplarité. Vous voyez?
Repeindre les murs des impôts, des centres des impôts.
C'est des travaux d'intérêt général, c'est intéressant. Je vous le redis, payer ses impôts, c'est prendre soin de la communauté. On pense qu'on en paye un peu trop, ceci, cela, mais en fait, vous voyez, on est bien content de les trouver quand les pompiers combattent les incendies ou quand des aides-soignants viennent en brancardier vous chercher quand vous êtes malheureusement fait une entorse. Donc, payer ses impôts, c'est prendre soin de la communauté. Évidemment, je ne suis pas dupe que le ministre essaye de séduire. Moi, je demande des actes.
Vous applaudirez aussi quand ils feront la lutte contre la fraude sociale, ce qui devait être normalement les deux volets allaient ensemble. D'ailleurs, dans la phrase d'Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est adressé aux Français il y a une dizaine de jours, il avait dit on va lutter contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale.
Mais on le fait déjà. Vous savez peut-être que pour demander le RSA, on vous demande depuis quand vous êtes en couple et sinon depuis quand vous êtes séparés. En fait, on réclame et on vérifie le compte en banque des allocataires du RSA. En fait, on réclame des vertus aux plus pauvres dont on exempte complètement les plus
riches. Mais ils ont annoncé également que, notamment sur cette question de la fraude sociale, ils iraient plus loin dans la recherche des preuves et notamment mettre à contribution les agences de compagnies aériennes pour demander si, oui ou non, les allocataires ont voyagé et combien de temps ils étaient hors de France. Est-ce que cette lutte-là, vous l'applaudirez aussi?
Non, mais il y a eu des propos parfaitement racistes, disons le mot de Bruno Le Maire sur...
Pour vous, c'était raciste, c'était à ce micro.
Oui, bien sûr, c'est raciste de la part de Bruno Le Maire d'alimenter des stéréotypes et des préjugés sur les Maghrébins qui ne font que transférer ce qu'ils peuvent pour soutenir la famille. Voilà.
Il avait dit du Maghreb ou ailleurs.
La réalité...
Et il avait aussi cité le Portugal.
La réalité, c'est, je le redis, c'est déjà très contrôlé sur les allocataires du RSA. Moi, j'ai pas de souci à ce qu'il y ait des contrôles. Mais je le dis, c'est très contrôlé, y compris quel est votre statut marital et depuis quand vous êtes célibataire. C'est ça qu'il y a sur le CERFA de demande du RSA.
Oui, mais c'est pareil sur les impôts. La question, c'est ensuite, c'est est-ce que vous vérifiez? Non, mais sur les impôts, on vous demande si
mais c'est
vous
pas
êtes
du
en
tout pareil. Le crédit impôt recherche est une véritable niche fiscale. Une entreprise déclare, je vais faire des recherches, voici les milliards. Et c'est pas du tout contrôlé. Et au contraire, vous avez des entreprises qui profitent de ce crédit impôt recherche pour licencier. C'est l'exemple de Sanofi, par exemple. Moi, je suis pour qu'il y ait enfin des contrôles sur les entreprises, qu'on lâche la grappe aux particuliers. et qu'on mette enfin des contrôles aux entreprises.
Julien Bayou, les manifestations, c'est visiblement deux poids, deux mesures. Il y a eu plusieurs manifestations, soit autorisées, soit interdites ces derniers temps. L'une qui a été autorisée et qui a fait beaucoup parler, c'est cette manifestation organisée notamment par des personnes du GUD. C'était dans les rues de Paris. Je voudrais qu'on regarde ces images pour ceux qui sont sur BFM TV. Ça s'est passé samedi dans les rues de la capitale. Une marche silencieuse qui faisait un peu froid dans le dos, faut quand même le dire, avec notamment des personnages masqués, alors que c'est strictement interdit sur le sol parisien. Celle-là a été autorisée, ça vous choque ? Pas de trouble à l'ordre public, hein, c'est l'explication de la préfecture de Paris. Ce qui est vrai, c'est vrai. Pas de trouble au sens, pas de cassage. Enfin,
mais c'est l'alarme, là. Les néo-nazis défilent en plein Paris. L'ultra-droite suprémaciste défile en plein Lyon. Et là, c'est pour un cortège, mais d'habitude, ce sont des ratonnades. D'habitude, ils vont aller tabasser des gays dans des bars LGBT. C'est ça la réalité qui gangrène notre pays. Et donc, le ministre de l'Intérieur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en prend à la Ligue des droits de l'homme, la vieille noble dame qui s'est constituée au moment de l'affaire Dreyfus, qui a défendu notre République, la liberté de manifester, la liberté d'expression. Vous voyez, c'est pas un deux poids deux mesures. C'est une erreur fondamentale. Ces gens-là sont dangereux. Dans cette manifestation dont on parlait hier, masquée, il y a des néo-nazis, des suprémacistes blancs, l'ultra-droite. Il y a aussi deux anciens trésoriers de Marine Le Pen, très proches du Front National, Axel Lousteau, qui m'avait par exemple menacé physiquement en plein conseil régional. Je le dis, ces gens sont dangereux, il ne faut pas du tout banaliser. Ces gens-là veulent abattre la République, veulent abattre l'égalité. Et qui, le ministre de l'Intérieur, cible ? Des militants écologistes pacifistes et la Ligue des droits de l'homme.
Dans le même temps, pratiquement, il y a eu aussi des manifestations anti-Emmanuel Macron. Certaines ont été annulées. Les Champs-Élysées étaient d'ailleurs vides pour les commémorations. D'autres ont été autorisées. Il y a eu cette manifestation avec ce slogan que je voudrais qu'on écoute. Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Écoutez. Et parmi ceux qui criaient ce slogan, Julien Bayou, il y avait notamment Christophe Prudhomme, un élu LFI qui avait été sur votre liste. Ça vous choque ?
Oui, c'est pas du tout le rôle d'un élu. Évidemment, c'est pas du tout les slogans que moi j'aurais chanté. Je voudrais pas qu'on passe tout l'interview là-dessus, parce que les images d'Emmanuel Macron qui défile en saluant une foule imaginaire, je trouve, sont assez symptomatiques. On confine pas la démocratie. Et donc, il espère tourner la page des retraites. On y reviendra. Et le 8 juin, nous pouvons abroger cette réforme à l'Assemblée.
C'est ce que vous espérez, bien sûr. Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts de Paris, merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h50 sur RMC BFM TV.